France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et voilà, ils sont là, hein, ils sont trouvés la route de la maison de la radio, s'extrayant de leur bureau où ils ont tout donné aujourd'hui, entre une partie de Mario Kart et un épisode de Casa del Papel. Ils ont été très productifs, je vous assure, donc ils sont en forme. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la politologue et professeure à la Sorbonne, Frédéric Matonti, bonsoir.
Bonsoir.
Également Marion Mourgue, bonsoir,
bonsoir.
Du Figaro, Laure Breton, bonsoir, de Libération,
bonsoir.
Et également Julien Leclerc, bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes entrepreneur et vous sortez voilà un nouveau livre, c'est Rendez-vous avec la France qui bouge, c'est aux éditions du Rêve. C'est quoi la France qui bouge, Julien Leclerc?
Celle qui croit en elle et qui croit en demain, en tout cas.
D'accord.
Voilà. Et même en aujourd'hui, d'ailleurs, elle a cette audace-là.
D'accord, sans initiative qui change tout.
C'est une centaine d'inconnus qui ont inventé des solutions qui résolvent les fractures de ce pays en matière d'emploi, d'environnement, d'éducation. C'est juste des gens géniaux qui vous donnent la banane.
Très bien, voilà, que vous avez rencontré. Rendez-vous avec la France qui bouge. Et ce soir, on parlera de Emmanuel Macron en pleine épiphanie. Étudiants, faites attention, les profs sont avec vous. Et dans la deuxième demi-heure, nous reviendrons sur l'interview de François Hollande, hein, au journal de 20h ce soir de France 2, où il revient. Ah, quand s'y attend pas. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. En février 2017, le magazine Paris Match sortait cette indiscrétion de la part de Brigitte Macron. Celle qui n'était pas encore première dame avait expliqué à un ami « Tu sais, c'est pas marrant de vivre avec Jeanne d'Arc ». Alors, bientôt, La République En Marche sortira peut-être sa propre version de la Bible, dans lequel Emmanuel Macron a fait sortir le peuple de France après 40 jours dans le désert de l'enfer du Code du Travail, qu'il a chassé les zadistes du temple de Notre-Dame-des-Landes et redonné vie à une rame de train en grève, forcément gare Saint-Lazare. Étonnante relation que celle du président de la République et de la foi. Hier, le chef de l'État participait à la conférence des évêques de France au collège des Bernardins. À Paris, invité d'honneur, il a prononcé un long discours devant 400 invités et une phrase a particulièrement attiré l'attention. Je cite « Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il importe à vous comme à moi de le réparer ». À peine prononcé, les critiques fusaient et notamment de la part de la gauche comme le député des Bouches-du-Rhône insoumis Jean-Luc Mélenchon.
Il a fait hier un discours sidérant, de tout point de vue, consternant de la part d'un président de la République française, parce que le lien n'a pas été abîmé avec les églises, mais en particulier avec l'Église catholique. Il a été rompu. Et il n'y a aucune raison de revenir sur cette rupture.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc député de la France Insoumise et chef du groupe de la France Insoumise. Frédéric Matonti, est-ce que pour vous, il y a eu une atteinte à la laïcité de la part d'Emmanuel Macron? Comme certains disent.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser le problème. C'était un étrange discours. Je l'ai lu, il se trouve que je l'ai lu en entier. Alors d'abord, pour aller vite, c'est quand même, comme souvent chez lui, une mauvaise copie de Cagneux avec des références qui ne vont pas ensemble, arriver à placer Pascal d'un côté et Bataille de l'autre. Il faut vraiment faire une mauvaise copie de Cagneux. Bon, il y a un discours de circonstance, il vient parler de la PMA, il vient parler de la GPA. Bon, si on est un peu plus sérieux, on voit bien qu'il fait un appel à l'engagement de l'Église et des catholiques dans le temporel. D'habitude, c'est les papes qui font ça, donc c'est pas les présidents de la République. Ensuite, il y a un discours très étonnant sur l'horizon de l'angoisse du salut qui a disparu, sur les valeurs qui ne doivent pas être que matérialistes dans ce monde, qui vraiment est un discours qui fondamentalement s'inscrit dans des valeurs chrétiennes. C'est en cela que pour un président de la République, s'il y a peut-être une rupture avec la laïcité, elle est là. Et puis, il y a ces phrases très surprenantes où il compare l'enfant à naître et le mourant, et il explique en gros que l'Église est là pour aider l'enfant à naître et le mourant, donc autrement dit, un discours anti-euthanasie et un discours anti-IVG. Mmh. Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait Laure Breton.
Il met dans le même sac, pardon, l'enfant à naître, le vieillard mourant et le migrant à qui il faut tendre la main de la même manière. Mmh. Quand on sait qu'on est en plein examen de la loi Asile et Immigration, contre laquelle se mobilise une partie justement des associations d'essence catholique, le CCFD, le Secours catholique ou Caritas, c'était assez croquignolesque d'avoir les trois mis dans le même sac.
Croquignolesque, c'est le cas de le dire. En tout cas, Julien Leclerc. Alors, les soutiens du président disent l'État est laïque, mais pas la société. Qui s'est exprimé hier? C'est le président ou c'est le citoyen Macron? Alors.
C'est étrange, je suis d'accord avec le mot. Il y a un truc qui l'est pas, c'est qu'il y a toujours une espèce de dimension métaphysique chez Emmanuel Macron qui est présente depuis longtemps. Si vous lisez le bouquin Révolution qu'il a écrit en campagne, pour sa campagne, plusieurs fois il utilise le mot transcender, la fonction, la France a besoin d'un président qui est transcendé par cette fonction-là. Donc il y a quelque chose quand même qui dépasse l'humain. Donc ça, on l'a bien retrouvé dans son discours hier, c'est pas hyper surprenant, mais c'est vrai que c'était très étrange. Il y a des formules qui sont assez étonnantes et moi j'ai presque l'impression, très naïve, j'en ai conscience, et sans doute j'ai tort, mais qui s'est laissé dépasser par le truc. On a l'impression que c'était... Et parfois, par ses mots, il aime tellement les mots, il aime tellement ses discours, et essayer d'avoir des références culturelles, philosophiques, etc.
Vous pensez à un exercice littéraire, finalement,
ouais,
c'est ça?
Oui, on a l'impression qu'il se laisse embarquer dans son truc. Alors, c'est sans doute pas le cas, mais c'est quand même l'impression qu'on a. Moi, en tout cas, je suis, en tant que communicant, extrêmement curieux de voir où il nous amène, parce que c'est ça qu'on sait pas. Il va où et quoi demain la suite, quoi.
Marion Morgue.
Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il se laisse embarquer, alors peut-être par un discours fleuve, mais c'est quand même une pensée qu'il a développée pendant la campagne et qu'on retrouve dans différents discours avec l'idée que la laïcité n'est pas un... qui aurait pas une religion d'État qui pourrait se substituer aux autres religions et que la laïcité ne... elle n'est pas aussi stricte, finalement, qu'on pouvait l'entendre sous François Hollande ou même sous Nicolas Sarkozy, quoique.
Ouais, on se souvient des extrémistes de la laïcité. Hein. Ouais. Voilà, il avait parlé de ça aussi à un moment.
Et pour Emmanuel Macron, on voit que les religions doivent prendre toute leur place dans la société. Donc c'est peut-être là où c'est un peu différent par rapport aux autres présidents, mais en tout cas, je trouve cohérent par rapport à ce qu'il a l'habitude de dire.
Frédéric Matonti. Je voyais agir sur
non,
ça.
Non, mais parce qu'on voit bien qu'il y a ce côté, il a été élevé chez les jésuites. Mmh. Enfin bon, ça sort, effectivement. Bon, mais y compris le côté, il faut une incarnation, il faut de la monarchie. Ça s'enracine quand même dans un terroir intellectuel qui est très repérable et qui est très à droite. Alors je pense qu'aussi, il est en train de draguer la droite, là.
Oui, c'est ça. Marion Maury, vous pensez aussi qu'il y a ça? Alors juste une chose, parce qu'on se souvient, pendant la campagne, il avait dit, Emmanuel Macron avait déclaré que les adversaires au mariage pour tous avaient été humiliés. Beaucoup de catholiques, pas tous bien sûr, avaient manifesté contre le mariage pour tous. Est-ce que c'est de nouveau un signe envers
cette électorat? Oui, là il y a un signe et il y a même une petite référence au fait que les catholiques n'ont pas été pris en compte dans... Alors il dit pas mariage pour tous, mais on sent qu'il y a une petite critique à François Hollande et une défense des catholiques à cette période-là. Donc oui, il y a un message qui est clairement adressé. Pour l'instant, les catholiques y sont plutôt sensibles, mais après attendront des actes. Donc c'est là où il sera peut-être rattrapé aussi.
Allez, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h10, Marc Potvin.
Des décisions concernant la réponse à l'attaque chimique présumée de Douma seront annoncées dans les prochains jours. C'est ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Cette réponse concernerait seulement les capacités du régime syrien, pas ses alliés, précise le président. Un départ de plus dans l'équipe Trump. Cette fois-ci, c'est son conseiller à la sécurité intérieure qui fait défection. Annonce aujourd'hui de la Maison Blanche. Tom Bossert était notamment impliqué dans la lutte antiterroriste. La direction d'Air France tend la main aux grévistes. Elle propose l'ouverture d'une négociation sur les salaires pour sortir du conflit en cours. Demain, par exemple, 3 vols sur 10 devraient être annulés. La direction met sur la table une augmentation des grilles salariales de 2% pour cette année. Les syndicats demandent eux une hausse générale des salaires de 6%. À Notre-Dame-des-Landes, les expulsions se poursuivent sur la ZAD. Une dizaine de squats ont été détruits aujourd'hui. En tout, 16 squats ont été évacués depuis hier et le début de l'opération. Des échauffourées aujourd'hui ont fait 10 blessés côté gendarmes. Les zadistes comptent une vingtaine de blessés dans leur camp. Et puis une anomalie de plus découverte sur le site de l'EPR de Flamanville. De nouveaux défauts de soudure ont été détectés sur le futur réacteur. EDF va devoir mener une série d'inspections. L'entrée en service du réacteur de nouvelle génération, déjà reportée et prévue à la fin de l'année, elle pourrait être à nouveau décalée.
France Info.
20h-21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Pour la petite phrase du jour, c'était au Collège des Bernardins qu'il fallait aller hier soir, hein, puisqu'Emmanuel Macron était l'invité de la conférence des évêques de France. Il a prononcé cette fameuse phrase dont tout le monde parle aujourd'hui. Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il importe à vous comme à moi de le réparer. Juste une chose, Laure Breton, quel est ce lien alors qui s'est brisé?
Mais je crois que je voulais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est un clin d'œil à la droite. Alors, sur le fond, ce discours me pose énormément de problèmes sur cette entorse supposée, peut-être, mais sur ce que disait Frédéric Matondi tout à l'heure. On sent qu'il y a un vocabulaire qui est repris sur l'IVG, sur l'euthanasie. Donc, il y a des choses. Et sur les migrants, en gros, il leur dit je vais faire mon projet de loi. Je ne sais pas ce que c'est que son humanisme réaliste sur lequel il revient à nombreuses reprises. Mais par contre, sur le signal donné à la droite, je pense que d'un point de vue stratégique, ce qu'il est en train de faire est quand même un tout petit peu plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même en train d'essayer de mettre de côté une partie de la manif pour tous. Il essaye de revenir vers ces catholiques de droite, mais de centre-droit, ces catholiques républicains, ces catholiques sociaux, et en leur envoyant effectivement des signaux qui peuvent me déplaire, mais qui sont peut-être malins dans l'idée ensuite d'aller plus loin et de marginaliser ou d'ostraciser les jusqu'au boutistes de la manif pour tous. Alors, donc stratégiquement, c'est peut-être pas mal joué. Sur le fond, ça me déplaît. Stratégiquement, c'est pas
alors,
mal joué.
Tout à l'heure, on a entendu Jean-Luc Mélenchon pour qui c'était clairement une atteinte à la laïcité. Et justement, des micros ont traîné aujourd'hui dans la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Et on va entendre que les députés des Républicains, eux, ne savent pas trop quoi dire par rapport à cette phrase. On va entendre Philippe Gosselin, le député des Républicains.
Je ne vois pas en quoi le président de la République a remis en cause l'indépendance de l'État et de ses services et des fonctionnaires de l'État. Il dit et il réaffirme que les religions ont des choses à dire.
Voilà, Philippe Gosselin, cet après-midi, Marion Bourg, on le voit. Là, il y a un souci de critique d'Emmanuel Macron autour des Républicains.
Oui, alors, et on l'a vu, c'est pas le premier sujet sur lequel la droite est un peu embarrassée, mais là, particulièrement, les députés ont du mal à se positionner, alors que souvent, ce sont des positions sur le fond qu'ils défendent. Et donc, chez les Républicains, il y a un embarras, voire un silence des ténors. Là, oui, c'est bien joué stratégiquement pour prendre ce que disait la part d'Emmanuel Macron.
Frédéric Matondi, est-ce qu'il fait pas ça aussi dans une avancée de communication par rapport à une peut-être prochaine loi sur la PMA, le fait qu'elle peut s'étendre à toutes les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, finalement, de se dire je donne un peu pour ensuite par rapport à cette loi?
J'ai regardé un peu ce qu'il dit entre les lignes sur la PMA. Je ne suis pas sûre que ce soit si clair que la PMA sera donnée à toutes les femmes, y compris alors les femmes célibataires, y compris les femmes... Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit si clair que ça. Ouais. Je ne suis pas sûre que ce qu'ils disent... De toute façon, ce discours était assez incompréhensible par plein d'endroits, donc savoir vraiment ce qu'il y avait dedans, c'était pas simple. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est que imaginons qu'il ait tenu ce discours-là sur une autre religion. C'est-à-dire que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours à la France et son lien particulier au catholicisme, quoi, la fille aînée de l'Église. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant, beaucoup plus que l'entorse à la laïcité. Le moment où il explique, par exemple, que il y a toujours un lien entre l'histoire de la France et le catholicisme, et quand il parle des tranchées, c'est quand même un moment très étonnant qu'on n'a pas relevé, mais en gros l'union sacrée, oui, c'est Charles Péguy, l'union sacrée, enfin c'est quand même, enfin hier c'était la journée sabre et goupillon, quoi, c'était les CRS partout et puis de l'autre côté le discours aux églises, quoi.
Julien Leclerc,
c'est tout à fait ça, c'est d'autant plus étonnant que c'est quelqu'un qui est très attaché aux mots, quand même, il balance pas des mots par hasard. Et donc si on écarte l'hypothèse qu'il s'est laissé embarquer dans un discours fleuve, qui était quand même très fleuve et très long, franchement, donc assez compliqué à suivre du début à la fin.
C'était une heure et quart,
je crois. Voilà, je me suis refait aujourd'hui pour préparer l'émission. C'est assez long.
Bravo, pour votre abnégation.
C'est de l'abnégation, ça.
Bravo.
Si on écarte cette hypothèse-là, c'est encore une fois, qu'est-ce qui va se passer demain? Et je suis d'accord, je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait passé aujourd'hui s'il avait prononcé le même discours envers une autre religion? Est-ce qu'il faut s'attendre à des concessions faites à des autorités religieuses catholiques ou autres? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a un truc qui m'a beaucoup choqué aujourd'hui dans les réactions. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit que c'était un sous-curé. Je pense quand même que, vu l'éloquence du président de la République, ce serait au moins un vrai curé, pas un sous-curé.
D'accord.
C'est un vrai curé, ça, je suis d'accord.
Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette question, on voit se redessiner le clivage gauche-droite, alors que Emmanuel Macron essaye toujours de le transcender et de le faire disparaître. Et là, on voit bien, même au sein de la majorité, ou les réactions à l'Assemblée, c'est-à-dire que la gauche a plutôt critiqué ce discours et la droite l'a plutôt accepté et poursuivi. Oui.
On a l'impression d'ailleurs qu'il revient un petit peu, hein, d'ailleurs, ce clivage en ce moment, même sur la SNCF. On le voit, la gauche qui essaye de faire front commun et la droite qui a annoncé qu'elle allait voter la réforme de la SNCF. On voit en effet un clivage qui réapparaît Laure Breton.
Mais la gauche est divisée, la gauche n'est pas divisée pour les mêmes raisons. La gauche est contre ce discours, pas pour les mêmes raisons. On voit Jean-Luc Mélenchon, on voit ceux qui sont les tenants de la laïcité, de la loi 1905, rien que la loi 1905. On peut supposer que certaines personnalités à gauche n'ont pas apprécié ce discours, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'ils pensent que ça peut préfigurer des concessions ou une place plus grande pour d'autres religions, notamment l'islam, faite par Emmanuel Macron. Et on voit Manuel Valls ou une partie, le printemps républicain, c'est aussi pour ça que ce discours leur a déplu.
Julien Leclerc,
ça explique pour moi totalement aussi pourquoi ça fait tant de bruit aujourd'hui, c'est que c'est l'opportunité pour certains partis d'opposition de retrouver des clivages dans lesquels ils sont plus à l'aise et d'instrumentaliser quand même aussi un peu ce discours, même si sur le fond il est étonnant. On en fait quand même énormément de bruit aujourd'hui, alors que finalement, moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y a pas une seconde la place en France pour qu'on remette en cause les principes fondamentaux de 1905.
Allez, on verra en tout cas s'il y a des suites, parce que là on va parler des mouvements de colère. Loin de penser qu'un mouvement de revendication est facile à tenir, hein. Vous savez qu'il est simple de rester éveillé pour sa cause, mais là, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de fatigue à Paris. L'intersyndicale étudiante avait décidé aujourd'hui de manifester entre la Sorbonne et la fac de Jussieu. Bon, soit selon le site Via Michelin, 18 minutes à pied. Alors, je comprends qu'après plusieurs semaines de grève, on soit alimenté, mais bon, il va falloir retrouver un peu de tonus quand même. Depuis hier, une dizaine d'universités en France sont touchées par un mouvement de protestation contre la réforme de l'université. Un mouvement mouvant, puisque la mobilisation est fluctuante selon les jours. Après l'intervention des CRS hier à Nanterre, les grévistes se demandent qui seront les prochains. Aujourd'hui, plus de 400 professeurs d'université ont signé une tribune pour dénoncer une sélection, je cite, hypocrite à l'entrée de l'université. Mais avant tout, dépassionnons le débat tranquille. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Ce qui me frappe, moi, c'est que dans ces universités, une infime minorité, souvent d'occupants d'amphi qui ne sont eux-mêmes pas étudiants et qui sont d'ailleurs là pour des revendications qui n'ont rien à voir avec la loi sur l'enseignement supérieur, mais qui en gros viennent contester l'élection d'Emmanuel Macron, occupent des amphis. Vous avez la fac de Nancy, où vous avez des étudiants, 70% des étudiants ont voté pour la reprise des cours, et donc une infime minorité, souvent de personnes qui ne sont extérieures à l'université, n'empêcheront pas la tenue des cours et le fait que des étudiants, ils ont envie de poursuivre leurs études tranquillement.
Voilà, Benjamin Griveaux, ce matin sur Europe 1, Frédéric Matonti, quand vous entendez, justement, vous avez signé cette tribune. En tant que professeur d'université, quand vous entendez ça, justement,
ça c'est l'argument classique. Hein. Je veux dire, il y a des occupants qui ne représentent rien, qui bloquent. À partir du moment où là, dans le répertoire d'action, comme on dit en sciences politiques, il y a la question du blocage, ça suscite à peu près toujours la même chose. Bon. Il n'empêche que répondre sur ce point, c'est pas parler du contenu de la loi.
C'est ça.
Alors d'abord, cette loi, il faut bien voir qu'elle ne touche pas d'emblée les étudiants, elle touche les entrants dans l'université. Donc c'est un peu logique d'un certain point de vue quand on dit qu'il y a une faible mobilisation. Il y a effectivement une faible mobilisation, en tout cas pas énorme, des étudiants par rapport à d'autres mouvements, parce que ça touche plutôt les lycéens. Et donc, si le mouvement devait devenir un peu plus important, c'est lorsque les lycéens vont avoir les résultats des premières consultations et quand ils vont voir qu'ils n'ont pas forcément, on peut même être sûr qu'ils n'auront pas ce qu'ils ont souhaité, que là, le mouvement risque d'avoir une toute autre allure. Après, évidemment, on peut parler du fond, c'est-à-dire que le gouvernement ne parle pas de sélection, on a bien à faire une sélection.
Alors, on va voir pourquoi. Dans un instant, l'info à 20h20, c'est Marc Potvin.
Des accords juteux pour conclure la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite en France. 19 au total passés entre des entreprises françaises et saoudiennes pour une valeur supérieure à 18 milliards de dollars. Ces accords concernent des secteurs comme le tourisme, le traitement de l'eau, mais aussi la pétrochimie. Les étudiants à nouveau mobilisés aujourd'hui. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Montpellier par exemple, mais aussi à Paris. Un peu plus d'un millier de personnes ont défilé de la Sorbonne à l'université de Jussieu. Dans le cortège, il y avait aussi des enseignants chercheurs. Ces manifestants ont à nouveau dénoncé la réforme de l'accès à l'université. Des peines de prison de 2 à 9 ans ferme, c'est ce qu'a requis le parquet de Paris aujourd'hui contre 5 hommes. Ils comparaissent dans le cadre du premier procès de la filière djihadiste de Lunel. Une vingtaine de jeunes ont quitté cette petite ville de l'Hérault pour la Syrie. La Syrie où se rendra bientôt une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Elle va enquêter sur l'attaque chimique présumée dans la poche rebelle de Douma. Déplacement suite à l'invitation du du régime syrien. Cette attaque chimique présumée a déclenché un tollé international. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux menacent de mener des représailles contre Damas. Et puis en football, début des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions dans moins d'une demi-heure. Deux matchs commencent à 20h45. AS Rome, Barcelone et Manchester City, Liverpool. Barcelone et Liverpool se sont imposés à l'aller.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du mouvement étudiant. Ce soir, eh bien, il continue. Certaines facs sont bloquées, d'autres où il y a des AG, une mobilisation. Julien Leclerc, quand vous voyez justement ce mouvement étudiant qui n'est certes peut-être pas nombreux, mais qui est prégnant, qui continue, qui dure encore et encore. C'est pas la seule colère, mais celle-là, elle dure. On sait que le gouvernement regarde ça vraiment comme le lait sur le feu parce que les mouvements de jeunesse. Comment vous les voyez justement, vous, ces étudiants qui s'inquiètent de ces sélections et de cette réforme d'université ?
Qu'ils soient inquiets aujourd'hui, on leur demande d'exprimer des vœux d'orientation à un moment où ils se retrouvent complètement engorgés à tous vouloir faire la même chose et où on le sait, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Donc c'est normal qu'ils s'inquiètent. Moi, je trouve qu'il y a une hérésie totale, mais qui est pas nouvelle, qui est ancienne, et je trouve qu'on est toujours dans les mêmes débats depuis des décennies. Il y a d'un côté des filières qui sont complètement engorgées, avec beaucoup de jeunes qui, à la sortie du bac, veulent faire exactement la même chose. Et de l'autre côté, des filières qui sont complètement vides. Donc pour moi, il y a un problème énorme d'orientation dans ce pays qui démarre bien avant l'université, au lycée et même au collège. Donc on attend beaucoup de la réforme du bac et de la réforme du lycée, qui, si elle est bien faite, pourrait nous permettre d'imaginer un cercle vertueux. Mais encore une fois, je suis entrepreneur, vous le savez, il y a 1 million d'emplois à pourvoir dans ce pays. Je pense aux bâtiments, par exemple, qui trouvent absolument personne. Et il y a, à côté de ça, des filières complètement engorgées et du coup, avec des jeunes qui se retrouvent complètement paumés, quoi. Et c'est d'abord à eux qu'il faut penser. Mais j'ai l'impression, on continue à leur raconter sur ce qui les attend en post-bac et post-université, beaucoup d'âneries, quoi.
Frédéric Matanti, quand vous entendez ça, est-ce que c'est finalement, il y a aussi ça? Alors, on fait Parcoursup, etc., mais est-ce que c'est là aussi, là, dans la formation, dans un meilleur aiguillage des étudiants?
Alors, le meilleur aiguillage, tout le monde est d'accord. Bon, pour ce que vous voulez, c'est-à-dire pour le bâtiment, c'est pas du côté de l'université que ça se passe.
Bien sûr.
Bon, il faut aussi dire une chose un peu simple, c'est-à-dire que on est dans une sorte de ciseau, c'est-à-dire que les moyens alloués à l'université sont en baisse constante et on sait que démographiquement, et puis pas que démographiquement, il y a une demande de plus en plus longue de faire de plus en plus de gens de faire des études. Donc, on se retrouve avec une université qui n'a pas les moyens d'absorber le nombre de gens qui veulent faire des études. Alors, pourquoi ils veulent faire des études? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on sait que le diplôme... on sait tout d'abord que le diplôme, ça protège du chômage. Bon, ça, c'est la première des choses. On a aussi le fait qu'il y a des filières qui étaient faites pour les bacs pro et que pour les bacs techno, comme les filières de BTS, des IUT, etc., et qui sont aujourd'hui prises par des bacs généraux. Donc on se retrouve avec des étudiants qui sont sans doute peut-être pas les mieux préparés pour entrer à l'université, mais aussi parce que les très bons élèves des filières générales prennent leur place. Et puis il faut ajouter autre chose. C'est pas parce que l'idée qu'on puisse aller à l'université et qu'on y apprenne des choses peut-être à un rythme plus lent que d'autres, c'est pas forcément une forme d'échec. Qu'on nous raconte. Et puis, j'ajoute aussi un point extrêmement important. Il avait été promis, quand même, il y a une des choses pour faire passer la loi, c'était de dire qu'il faut faire une année de propédeutique. Moi, je suis pour qu'on fasse des années de remise à niveau, sauf qu'on n'a pas les moyens de les faire. Ni les moyens, ni la place.
Une chose plus politique, Marion Mogg, il y a beaucoup de fronts en ce moment qui sont ouverts quand même, là, on le voit. Alors, sur les facs, c'est vraiment surveillé, les facs en ce moment par le gouvernement. Il y a la SNCF, il y a Notre-Dame-des-Landes aussi, on le voit dans un autre univers. Mais est-ce que c'est possible de gérer tous ces feux en même temps, aujourd'hui, par le gouvernement?
Alors, Édouard Philippe disait ce week-end dans une interview qu'il n'y avait pas, à ses yeux, de convergence des mouvements. C'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'on sent une inquiétude commune, en tout cas, pour la défense du service public, qu'elle soit des cheminots, qu'elle soit des étudiants. Donc, pour le gouvernement, ça peut devenir compliqué. Alors, certains ont vu dans Notre-Dame-des-Landes, qui se passait lundi, la volonté de justement...
De montrer
qu'il y avait une autorité, une force, et puis parler un peu moins des grèves. Par contre, ça va être compliqué de le faire tous les jours.
Oui.
Et on voit bien qu'il y a une demande aussi de réponse de la part de l'exécutif. Donc, le fait que le président intervienne cette semaine Je suis pas sûr que ça calme tous les mouvements, mais ça peut apporter quelques réponses.
Oui, l'embreton, c'est aussi un
non,
peu.
Non, je sais. On rentrera peut-être dans une autre, dans un mouvement, une relance du mouvement quand les lycéens réaliseront qu'ils n'ont pas leur choix. Mais on est aussi rentré avec cette tribune de 400 voire 500 professeurs dans un autre dilemme pour l'exécutif. C'est plus possible de dire que ce sont quelques enragés étudiants qui de toute manière veulent leur mai 68 et qui finalement vivent romantiquement dans une ZAD intellectuelle à Tolbiac ou à Nanterre. Ça peut plus marcher maintenant. On a des profs qui disent la même chose que des étudiants et qui disent vouloir justement défendre ce service public universitaire. Donc il y a pas une cristallisation, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de changer. Et je suis d'accord avec Marion Mourgue. En une semaine, alors qu'on n'avait aucune conférence de presse, aucune intervention télévisée du président de la République, on en a deux. Donc c'est bien qu'il y a un péril en la demeure, en tout cas volonté d'éteindre certains feux.
Officiellement dimanche c'est pour le bilan, hein, c'est sur les 1 an, hein, normalement voilà c'est
oui,
ça.
Les 1 an qu'on fait avec un jour d'avance.
Allez, dans un instant on va parler de François Hollande. Merci beaucoup Julien Leclerc d'être passé ce soir. Je rappelle votre dernier livre, Rendez-vous avec la France qui bouge, sans initiative qui change tout, c'est aux éditions du Rêve. Merci d'être passé et à bientôt. Les Informés de France Info, on revient dans quelques minutes pour parler de François Hollande, donc il fait son grand retour, un plan média incroyable, ça y est, il est de retour en ville. On parle de tout ça dans quelques minutes dans Les Informés de France Info.
Économie. L'INSEE l'affirme, la cadence de l'économie française est bonne. La demande est là, la croissance des investissements devrait dépasser les 4% en juin.
International. Le président Trump a débuté son intervention en expliquant que la Chine était un pays ami, mais que malgré cela, il devait agir.
Politique. Le français, première langue de l'Afrique et peut-être du monde. Prévision optimiste signée Emmanuel Macron à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info.
7h, 9h, la matinale de France Info.
Un nouveau jour se lève.
Bruce Toussaint.
L'actualité média, Céline Bayle-Darcourt.
Du côté de la Une, on s'inquiète face à l'érosion de ses audiences.
Des reportages.
Les jours qui passent n'ont pas entamé la détermination des Mahorais.
Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
L'actualité sportive.
Début déjà réussi pour la numéro 1 française.
Avec Jean-Michel Apathy, l'invité de 8h30.
Bonjour Bruce Toussaint.
Chaque jour, Marie Coleman nous parle d'une personnalité qui fait la une de l'actualité.
France Info, 7h, 9h, 2 points. Ouvrez l'info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récolté à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Au sud, soleil au nord. Demain, au nord de la Loire, on profitera du soleil. Il faudra tout de même se débarrasser de la grisaille matinale. Elle pourrait traîner un peu plus longtemps près des côtes de la Manche. De la Vendée, du nord de l'Aquitaine vers la région Rhône-Alpes, des nuages, peut-être quelques ondées l'après-midi. Et puis du sud de l'Aquitaine vers le sud des Alpes, un ciel gris, pluvieux, avec des pluies marquées et orageuses autour de la Méditerranée. De la neige sur le relief, du vent jusqu'à 80 à 100 km à l'heure. Il fera 4 degrés à Mulhouse le matin, 5 à Caen, 8 degrés à Paris, 9 à Lyon et Bordeaux, 12 à Marseille. L'après-midi, seulement 10 à 16 degrés sous la pluie au sud, mais ce sera agréable au nord de la Loire sous le soleil avec 15 à 20 degrés.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
2 points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Marie Rouarge, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'État recourt à la force avec beaucoup de maîtrise à Notre-Dame-des-Landes. C'est en tout cas l'avis d'Edouard Philippe ce soir. Un Premier ministre ferme et résolu après une nouvelle journée sous tension au deuxième jour de l'évacuation de la ZAD. Et cette tension ne redescend pas ce soir, Farida Noir.
Derrière un épais nuage de gaz lacrymo, les gendarmes mobiles continuent de lancer des grenades assourdissantes. En face d'eux, les zadistes, déterminés à protéger leur zone et qui n'en reviennent pas de la force déployée pour les déloger.
On balance des trucs qui explosent, qui font mal aux oreilles, avec plein de lacrymogènes qui brûlent. Et on est là, on attend que quelqu'un se dise, c'est quand même un truc de fou ce qui se passe, non? C'est un délire, parce qu'on est en zone de guerre, là. On peut pas parler ensemble ou faire des trucs genre, non. Tu seras puni, méchant.
Pierre est venu en renfort. Il se désole du spectacle qu'il découvre.
Les gens sont plus sur essayer de retrouver les lieux qui ont été abattus. Et comme les flics sont reculés, on a accès à des lieux qui ont été démolis. Et puis je suis pas de la ZAD, hein, mais on voit bien qu'il y a des habitats qui ont été foutus en l'air et que, bah, du coup, c'est un peu triste, quoi.
Étienne aussi découvre les dégâts et notamment la destruction de la chèvrerie, un lieu symbolique.
C'est pas admissible de démolir, surtout la gêne de la chèvrerie, là où on essaye de récupérer les bocaux, enfin ce qui reste, peu, ça fait mal au ventre. Et puis surtout, la ZAD, pour moi, c'est vraiment l'espoir de quelque chose pour l'avenir. C'est un nouveau mode de vie. J'ai beau avoir 70 ans, j'y tiens beaucoup pour les prochaines générations en tout cas.
Une journée sous tension encore, 10 gendarmes ont été blessés, une vingtaine du côté des zadistes, selon l'équipe médicale de la ZAD.
Farida Noir à Notre-Dame-des-Landes, journée un peu plus calme sur les campus où blocages et perturbations se poursuivent tout de même, notamment à Montpellier, Toulouse ou Paris. Mobilisation toujours contre la réforme de l'accès à l'université. 1200 personnes ont défilé à Paris, entre 200 et 300 enseignants et étudiants à Lille, environ 200 à Montpellier. Encore un jour de grève pour la hausse des salaires demain chez Air France, le 7e depuis le début de la mobilisation. La compagnie prévoit d'assurer 70% de ses vols et la direction tend la main à l'intersyndicale. Elle propose l'ouverture de négociations sur les salaires sur 3 ans et 2% d'augmentation dès 2018. La France ne souhaite aucune escalade au Moyen-Orient. Les mots d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune avec le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman ce soir. Quant aux éventuelles frappes contre le régime syrien après l'attaque chimique sur Douma samedi, nous annoncerons nos décisions dans les prochains jours, précise le chef de l'État. Sujet également au programme du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir ce soir. Et puis un mot de football, les quarts de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Le FC Barcelone se déplace à l'AS Rome, Manchester City reçoit Liverpool. Match à 20h45. 20h33 sur France Info, vous retrouvez Jean-Mathieu Pernin et ses invités.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils s'apprêtent à jouer un peu les Marty McFly de la politique, puisqu'on va revenir 1, 2, 3, 4, 5 ans en arrière et parler du quinquennat de François Hollande. L'ex-président de la République fait son retour avec un livre intitulé Les leçons du pouvoir. C'est Stock et il est ce soir actuellement là aux 20h de France 2. Et pour en parler autour de la table, nous trouvons donc toujours la politologue Frédéric Matanti, Marion Mourgue du Figaro, Laure Breton de Libération. Et pour cette deuxième demi-heure, Patrick Bianconne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes ancien conseiller de François Hollande, auteur de La malédiction de l'Élysée, c'est aux éditions du Cherche Midi. Alors, juste avant de parler de ce livre, on voit un vrai plan média, juste Marion Mourgue, pour le président là. On voit ce soir, il est aux 20h de France 2. C'est à vous demain sur France 5 pendant 1h15. Il fera la matinale de France Inter. Il est très attendu, donc.
Et très service public.
Ah ben voilà.
À l'inverse, comparé avec le chef de l'État actuel.
Vous savez qu'ici, ça a été très remarqué. Hein,
c'est volontaire.
Voilà. Oui, voilà. Non, mais en effet, c'est ça qu'on a remarqué aussi, voilà. Qu'il faisait le service public. Mais il est bien sûr très attendu, François Hollande.
Oui, il est très attendu, même s'il y a eu déjà énormément de livres sur le quinquennat. Donc, je ne sais pas s'il y aura un appétit des Français pour savoir encore ce qui s'est passé. Mais c'est la première grosse expression sur son bilan qui vient de lui-même. Et en plus, la semaine où l'actuel chef de l'État s'exprime, donc on sent un dialogue, une partie de ping-pong et quelques anicroches entre eux.
Alors, on va bien sûr avoir des extraits dans un instant, mais Laure Breton, autour de cette table, vous êtes la personne qui avait lu, justement, avant tout le monde, ce livre, Les leçons du pouvoir, chez Stock. Juste au départ, une appréciation générale, je vais vous demander, de ce livre. Qu'est-ce qu'on...
Pour ceux qui connaissent François Hollande, et pour ceux qui ont suivi le quinquennat, il n'y aura pas d'énormes nouveautés. En fait, il y a quelques petites révélations sur les coulisses du pouvoir, notamment dans le chapitre qu'il consacre, et c'est le seul à qui il consacre un chapitre entier, à Emmanuel Macron, justement. Ouais. Mais on retrouve un ancien président bonhomme, affable, qui se livre un peu sur sa vie privée. Ça, c'est un truc aussi qu'il avait refusé de faire et qu'il avait fait d'ailleurs à son corps défendant pendant le quinquennat. Parfois, c'est lyrique. C'est souvent assez scolaire, didactique. On a un peu l'impression de lire un que sais-je sur le fonctionnement de l'Élysée. Il y a un long, long développement sur comment se déroule un conseil des ministres, d'accord, avec les feuilles qui arrivent, les billets verts, le buvard. C'est assez étonnant. Et il dit qu'il ne veut pas se justifier, qu'il n'écrit pas ce livre pour se justifier. Et en même temps, parce qu'il a totalement raison, il a totalement envie de dire son bilan parlera pour lui. Il dit l'histoire me rendra justice. Mais il accélère un petit peu l'histoire et accélère un petit peu le temps. Et il a donc 400 pages pour expliquer que finalement c'était pas un si mauvais quinquennat que ça.
Une chose, est-ce que c'est quand on lit ces pages, est-ce qu'il y a un parfum de revanche, de rancœur, de quoi dedans ?
Alors, c'est sur le fil de l'aigreur, souvent, contre les frondeurs qui seraient les seuls responsables de l'échec de ce quinquennat. C'est un petit peu gonflé, comme analyse, un petit peu court, jeune homme. Après, sur Emmanuel Macron, c'est un peu étonnant, parce qu'en fait, à toutes les étapes, il dit, ce n'était pas de la naïveté, je suis quelqu'un qui fait confiance, je pars du principe que je fais confiance.
Mais qu'il n'a pas vu venir.
Il dit, la méfiance est une perte d'énergie, je décide de ne pas consacrer mon énergie à la défiance. Mais en même temps, il y a une analyse qu'il n'a pas faite, une analyse de la situation des Français. Il dit, je pense que la gauche n'était pas prête, en pleine loi travail, en pleine déchéance de la nationalité, à se livrer à un homme présidentiel. Bon, ben là, on sait qu'il s'est planté.
Patrick Biancone, vous avez été un des conseillers de François Hollande. Vous allez l'acheter. Vous l'avez peut-être reçu, d'ailleurs,
non,
ce livre.
Je ne sais pas. Pas du tout.
Pas encore.
Non,
très
non,
bien.
Non, pas du tout.
Vous allez le lire.
C'est pour ça que j'ai écouté beaucoup Laure. Ouais. Parce que, non, et puis j'ai regardé un petit peu sur Alors, France 2.
On va en parler dans un instant, mais juste avant, votre, quand vous entendez justement de parler des frondeurs, comme ça, de parler,
voilà, de cette description. Il y a deux choses dans ce que vient de dire Laure. La première, c'est que c'est vrai que la démarche de François Hollande avec les gens avec lesquels il travaille, c'est de leur faire confiance a priori.
D'accord.
Il les laisse faire, il les laisse avancer, et puis au bout d'un moment, il fait le point sur l'action menée par les conseillers ou d'autres, et puis il dit c'est bon ou c'est pas bon, il s'en sépare ou il continue le chemin avec eux. La deuxième chose, c'est sur les frondeurs. Les frondeurs, on ne peut pas dire que ce sont eux qui ont fait capoter finalement le quinquennat de François Hollande, c'est une hérésie. Les frondeurs, à mon sens, ils étaient beaucoup plus hollandistes ou hollandais que François Hollande lui-même.
Ah oui, d'accord.
Oui, parce que les frondeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Ils sont le Bourget, en fait, c'est ça.
Mais bien sûr, voilà. Mais c'est, tout vient de là. Mmh. L'acte fondateur de François Hollande et son élection, c'est le Bourget. Et ce grand discours du Bourget, un certain nombre de socialistes, Benoît Hamon, d'autres, Christine Taubira, enfin bref, on ne va pas tous les citer, l'ont pris au pied de la lettre. Or, que s'est-il passé ? Une fois au pouvoir, François Hollande n'a pas tenu les promesses qui étaient contenues là-dedans. Il est parti, il devait renégocier le traité, certains points du traité européen. Il est parti voir Angela Merkel le premier jour, le jour de la passation des pouvoirs. Il est revenu, il ne s'est rien passé parce que Angela Merkel, c'est une fin de non-recevoir. Mmh. La grande réforme fiscale qu'il nous promettait, elle n'a pas eu lieu. Les banques, il devait séparer les activités financières des banques et les placements, etc. Il ne l'a pas fait, ça a été des
filiales. La lecture vous surprendra parce que lui, tous les points que vous venez d'évoquer, pour lui, et c'est une certaine forme de réécriture de l'histoire, ont été cochés. C'est sur la liste.
Je
ne
dis pas qu'il
n'en
a pas parlé. Il a parlé avec Madame Merkel sans doute, mais ça ne s'est traduit par rien du tout.
Une chose, Frédéric Patonti, est-ce que vous êtes curieuse, vous, de ça, de François Hollande, de ce que François Hollande était au pouvoir il y a encore un an, de ce qu'il a pu faire de son quinquennat, de cette défense de son bilan.
Ah non, mais je suis curieuse parce que quand on s'intéresse à la politique, et c'est mon métier, est fatalement curieux de savoir ce qu'un politique va dire de son expérience. Ça, c'est une évidence. Moi, j'ai lu uniquement l'interview du Nouvel Observateur. J'avoue qu'elle m'a fait du bien, cette interview du Nouvel Observateur. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'autocritiques sur des points où il était nécessaire de faire des autocritiques. Ne pas être allé assez loin sur la PMA, ne pas avoir... on parlait de la question du vote des émigrés, ce genre de choses. Bon, ça, c'est très, très bien. Et puis aussi, il y avait ce côté extrêmement reposant, après les exercices monarchistes du président actuel, d'avoir quelqu'un qui continue à défendre le président normal. Moi, je ne suis pas du tout fan de l'exercice actuel du pouvoir, ni des premières dames, ni de ce genre de choses.
Et vous pensez que ça a vraiment existé, un président normal ? Lui, il le dit.
Cas, nettement plus que ce qu'on a en ce moment. Ailleurs, ce qui m'amuse en vous entendant, c'est que vous avez été son conseiller. Oui. Et que c'est extraordinaire de voir à quel point même les conseillers n'ont pas une fidélité minimale.
Ce n'est pas une question de fidélité, madame. Écoutez, quand on s'engage aux côtés de quelqu'un, on ne s'engage pas seulement pour la personne. On s'engage pour des idées et pour son pays. Mmh. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Quand on est en rupture sur les programmes, etc., il y a un certain nombre de gens qui sont partis parce qu'ils ne pensaient que la politique qui a été menée, ce n'était pas celle qui avait été annoncée. Eh bien, c'est exactement ça. Et moi, ce que je dis, c'est que j'ai une certaine idée de la France, une certaine idée de la politique, une certaine idée de ce que doit être un socialiste et la politique qu'il doit conduire, eh bien, je ne l'ai pas retrouvée. Moi, j'ai eu en face de moi une dérive lente vers un social-libéralisme qui n'était pas annoncé.
Alors,
je suis désolé.
Alors, Patrick Biancone, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Marc Potvin.
Donald Trump et Theresa May condamnent le mépris cruel pour la vie humaine dont fait preuve Bachar al-Assad. Le président des États-Unis et la première ministre britannique se sont téléphonés aujourd'hui. Ils affirment qu'ils ne laisseront pas les attaques chimiques se poursuivre. Réaction après l'attaque chimique présumée à Douma en Syrie ce week-end. François Hollande défend son bilan ce soir aux 20h de France 2. Il en profite aussi pour critiquer son successeur Emmanuel Macron. À l'entendre, la grève à la SNCF est la conséquence d'un manque de méthode et de concertation. Chaque fois qu'une réforme se fait dans la négociation, elle est comprise, estime l'ancien président. La direction d'Air France demande aux syndicats de suspendre leur grève. En échange, elle propose l'ouverture de négociations sur les salaires. Air France met sur la table une augmentation des grilles salariales de 2% cette année. Les syndicats demandent une hausse générale des salaires de 6%. La grève doit se poursuivre demain. 3 vols sur 10 devraient être annulés. Des affrontements violents aujourd'hui sur la ZAD. Gendarmes et zadistes se sont opposés. Côté militaire, il y a eu 10 blessés. Les zadistes comptent 20 blessés dans leur camp. Une dizaine de squats ont été détruits aujourd'hui, deuxième jour de l'opération menée par les gendarmes. Et puis une déconvenue de plus pour EDF. À nouveau, des défauts de soudure ont été constatés sur le futur réacteur de l'EPR de Flamanville. Le groupe va devoir mener une série d'inspections. L'entrée en service du réacteur de nouvelle génération a déjà été décalée. Elle est prévue à la fin de l'année et donc elle pourrait être à nouveau reportée.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Récemment, François Hollande était invité chez des étudiants à discuter. Et quand on lui a dit « Est-ce que vous préférez Game of Thrones ou House of Cards ?» Le président a dit « Bah, je préfère House of Cards parce que je l'ai regardé pendant 5 ans. » Donc voilà. Et donc son livre s'appelle « Les leçons du pouvoir ». Donc peut-être que justement c'est tiré d'House of Cards. Marion Mourgueux.
Oui, mais justement les leçons du pouvoir, on peut l'entendre au sens de bilan, mais aussi des leçons qu'il donne à son successeur. Et c'est vraiment ce qui transparaît de chaque interview et manifestement aussi du livre, c'est qu'il n'a pas digéré Emmanuel Macron, qu'il n'a pas digéré ce qui s'est passé, qu'il a l'impression qu'on ne lui a pas fait assez hommage. Et c'est plus cette aigreur, j'ai l'impression, qui transparaît de François Hollande plutôt qu'un bilan de son quinquennat.
Laure Breton.
Non, enfin, il y a des choses qui sont indéniables aussi. On parlait de ce qui avait été annoncé et qui n'avait pas été fait. Il y avait ce qui n'avait pas été annoncé et qui a été fait. Il y a eu le sauvetage de l'Eurogroupe, la Grèce, qui reste à l'intérieur de l'Europe. Il y a effectivement, c'est un plaidoyer pro domo. Par moment, il y a une réécriture de l'histoire qui est assez dérangeante, mais il considère effectivement, comme dit Marion Mourgue, que son bilan et que cette volonté qu'a Emmanuel Macron pour paraître comme l'homme tellement neuf de faire table rase totale du passé, alors qu'il a été son conseiller, alors qu'il a été son ministre et que finalement il lui doit tout. D'ailleurs, il a un chapitre qui lui dit ce qu'il me doit.
D'accord. Donc,
c'est comme ça.
Très bien.
Il considère que c'est à lui de faire ce service, mais tous ses proches sont dans cet état depuis l'été en fait, et font filtrer ce malaise sur la disparition ou l'effacement qu'Emmanuel Macron opère.
Oui, opère en ce moment. Alors Patrick Bianconi, pourquoi finalement François Hollande, dans l'interview de l'Obs qui sortira demain ou jeudi, il déclare qu'on ne rend pas suffisamment justice à son bilan. Pourquoi finalement dans ses proches personne monte au front pour défendre son bilan?
Parce que je crois que c'était Vincent Feltès qui disait le problème, c'est que on a du mal à y voir très clair dans le parcours que François Hollande a effectué à l'Élysée. Et je crois que c'est pour ça que personne n'est monté au créneau pour défendre le bilan. Et c'est pour ça qu'il y a eu des livres, parce que peu de gens ont compris le cheminement de François Hollande quand il était président de la République. Et les discussions que l'on avait entre nous, bien souvent, personne n'y voyait très clair. Peut-être à part un ou deux qui étaient très proches. Gaspard Ganzer, peut-être, qui était parfaitement au courant, très proche. Peut-être Vincent Feltès, qui lui était plus politique et qui était chargé même quasiment de préparer l'échéance électorale de 2017 qui était à venir. Et c'est pour ça qu'il était tellement concentré là-dessus qu'il n'a pas vu venir Emmanuel Macron.
Ouais, c'est ça, oui.
Et en plus, ce que je pense aujourd'hui, c'est que François Hollande est très chagrin parce que Macron veut représenter la modernité, la jeunesse. Et tout le reste, c'est l'ancien monde pour lui. Et François Hollande a eu d'ailleurs une phrase là-dessus en disant « Oui, l'ancien monde, c'est quoi ? Eh ben, c'est la démocratie. »
C'est ça, voilà.
En le renvoyant à ce qu'il fait actuellement, la politique qu'il mène, c'est-à-dire l'absence de concertation sur certains points, certains domaines, etc. etc. Et donc ça, c'est vrai que Hollande, lui, il est à la recherche d'un consensus. Et Ils se concertaient beaucoup, mais ouais. peut-être un peu trop, ouais. ce qui paralysait l'action politique.
D'accord. Alors, Laure Breton, vous voulez...
Non, je me disais, en fait, il y a toujours... Bon, les socialistes, ça fait longtemps qu'ils ont résolu le problème de... Ils ne sont pas révolutionnaires, ils sont réformistes. Et finalement, François Hollande était... Enfin, voulait être ce réformiste, cet adepte du compromis social-démocrate entre des garanties, de la flexibilité. Et il sent qu'il a été mal compris. Et il accuse une partie de la gauche, et je ne parle même pas de l'aile gauche ou de la gauche de la gauche... une partie des socialistes de ne pas avoir compris ou de se complaire finalement dans une forme de... Il dit la gauche a toujours... ses meilleurs ennemis sont toujours des ennemis internes. Et il a une phrase qui dit le ministère de la parole c'est le seul endroit d'où on est sûr de ne jamais être délogé finalement. D'accord. Et il les accuse de ne pas l'avoir accompagné, de ne pas l'avoir compris. Peut-être qu'effectivement c'était difficile à comprendre. Mais en tout cas cette aigreur elle est dirigée à la fois contre Emmanuel Macron et contre son camp qui ne l'a pas accompagné pendant 5 ans.
Alors Frédéric Matonti, justement, est-ce qu'en politique c'est toujours vrai cette phrase dont je vais vous parler? C'est François Hollande qui dit, lui ce qu'il ne digère pas aussi François Hollande, c'est les critiques de son bilan économique. Il dit on travaille toujours pour son successeur et on hérite toujours d'une situation. Est-ce que finalement, c'est ça parce que lui, ce qu'il n'a pas aimé, c'est le fait qu'Édouard Philippe parle d'un bilan insincère, de comptes insincères qu'ils ont récupérés.
Ah bah c'est sûr que le début, c'était juste pour faire apparaître à quel point les comptes étaient, enfin à quel point c'était mal tenu. Et puis après, on a vu avec les résultats de l'INSEE que c'était pas vraiment ça.
C'est ça.
Et donc, bon, effectivement. Bon, moi, il y a une chose quand même... Qui me frappe dans l'interview de l'Obs, hein, puisque j'ai pas la chance de l'avoir lu, c'est une espèce de petit coup de patte qu'il donne à Macron, où il dit en gros, bon, je l'ai pas vu venir, d'accord, et ça c'est sûr qu'il l'a pas vu venir, on se demande comment il a pas pu ne pas le voir venir, mais enfin bon, tout le monde le voyait, mais lui, mais il dit cette chose assez juste, c'est-à-dire qu'il dit, au moment où je prends la décision de ne pas me représenter, Fillon est très très haut. Et donc, en gros, il dit, d'ailleurs assez clairement, si Fillon s'était pas effondré, Macron ne serait pas élu. Et ça, je pense que c'est la chose la plus cruelle qu'on peut dire à Macron, parce que ça dit en gros, mon petit gars, t'as eu une chance absolument incroyable, mais tu ne dois cette chance-là qu'à l'effondrement, en fait, de Fillon. Et le vrai coup de vache, je pense qu'il est là.
Ouais, Laure Breton.
Il dit d'ailleurs, il avait une chance, il n'a qu'une chance, il le considère quasiment comme un... C'est très, très cruel, hein. Les pages sont vraiment très dures, sans jamais prononcer le mot de trahison, en effet, c'est assez étrange, mais il dit, il a une audace qui est grande, une chance qui est encore plus grande. D'une certaine manière, pour lui, Macron est un accident de l'histoire.
Moi, je trouve ça phénoménal.
C'est vrai que peut-être que Macron, c'est un accident de l'histoire, mais François Hollande, si DSK avait tenu la route avant, peut-être que François Hollande n'aurait pas été président de la République. On ne peut pas refaire l'histoire.
Vous qui avez été dans le cercle du pouvoir, Emmanuel Macron, il est arrivé par effraction, on ne l'a pas vu venir, vous pensez du tout? On ne le voyait pas?
Alors, oui, je confirme parce que quand on était en réunion, bien souvent le sujet était abordé, évidemment, que faire avec Emmanuel Macron qui se préparait, qui a créé En Marche, qui, etc., etc. Et certains, les avis étaient partagés, certains étaient déjà avec Macron. Il ne faut pas oublier que Macron, c'est la promotion Senghor.
Oui.
Et dans l'équipe de François Hollande, il y avait beaucoup de gens qui étaient de la promotion Senghor.
Donc Gaspard Ganzer.
Gaspard Ganzer et d'autres que je ne citerai pas, mais en fait, il y en avait pas mal d'autres, et qui occupaient d'ailleurs des postes clés dans différents ministères aussi. Voilà. Donc, tous ces gens-là ont été solidaires. Moi, j'ai assisté plutôt à un renversement de situation, c'est-à-dire qu'on a une sorte de passage de pouvoir entre la promotion Voltaire et la promotion Senghor. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez autour de Macron, c'est la promotion Senghor qui nous gouverne, qui gouverne ce pays. Il faut dire les choses comme elles sont.
Et je crois que c'est ça qu'il n'y a pas eu.
Voilà. Et le problème, c'est que Macron avait des soutiens qui ne disaient pas qu'ils étaient les soutiens de Macron quand il préparait sa campagne, vous voyez.
Ce qui est amusant, c'est qu'il y a presque une réhabilitation de Nicolas Sarkozy par François Hollande, alors qu'on se souvient de la passation de pouvoir qui était
très
quand même,
froide. Oui.
Très froide.
Oui.
Et là, manifestement, il a des mots plutôt sympathiques pour Nicolas Sarkozy. Sarkozy, son bilan.
Ah bon, d'accord, voilà. Il s'est dit sur Nicolas Sarkozy.
Il dit que c'était un homme politique, c'était une bête politique. Il dit qu'il s'emportait trop, qu'il avait trop mis en scène sa vie privée. D'ailleurs, quand il arrive, Hollande décide de faire l'inverse.
Ouais.
Et en tout cas, il semble instruit. Et sur cette passation de pouvoir, ce qui est étrange, c'est que
François Hollande regrette justement la manière.
Il ne le regrette pas. Il explique.
Il dit
on m'a mal compris.
Oui.
C'était de la mesure et de la réserve.
Ouais.
Et j'ai tourné les talons. Je le crois assez, en fait.
Ouais.
Mais non, il en veut beaucoup à Carla Bruni. Il n'a pas digéré le pingouin, ça c'est sûr. Il est persuadé qu'il faut.
Il est resté très people, finalement.
Il dit people serait un compliment. Il dit people, d'ailleurs, il dit populaire, presse populaire serait un compliment.
Allez, on va continuer, on parle dans un instant l'info à 20h50. Marc Potvin.
Emmanuel Macron fait un pari qui n'est pas le bon. Les mots de François Hollande pour qualifier la politique fiscale du président. L'ancien chef de l'État s'est exprimé dans le 20h de France 2 ce soir. Il estime qu'il y a un déséquilibre entre les retraités frappés par la hausse de la CSG et les plus riches. Ils ont bénéficié de la suppression de l'ISF au profit d'un impôt sur la fortune immobilière. Plus de 18 milliards de dollars, 14 milliards d'euros, montant total des 19 accords passés entre des entreprises françaises et saoudiennes. Ils ont été annoncés aujourd'hui à la fin de la visite en France du prince héritier saoudien. Parmi les secteurs concernés par ces accords, le tourisme, le traitement de l'eau, mais aussi la pétrochimie. Tout le monde déteste la sélection, l'un des slogans entendus dans les manifestations des étudiants aujourd'hui. À Montpellier, mais aussi à Paris, ils ont marché contre la réforme de l'accès à l'université. Les cortèges étaient peu fournis. L'heure des réquisitions au premier procès du groupe djihadiste de Lunel. Le parquet de Paris a requis des peines de prison de 2 à 9 ans ferme. 5 hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel. Ils sont notamment jugés pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Et puis un avion de chasse a perdu la réplique d'une bombe au-dessus de Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret. Cette réplique sert notamment lors des exercices d'entraînement de l'armée de terre. Dans sa chute cet après-midi, l'engin a blessé 2 personnes. Heureusement, leurs jours ne sont pas en danger.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, vous le savez, Emmanuel Macron, eh bien, sera au JT de 13h jeudi. Il sera avec Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel dimanche sur BFM et Mediapart. Alors, François Hollande, lui, il en profite pour faire la promotion de son livre, Les leçons du pouvoir. Ça sort demain et tout à l'heure, il était l'invité d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2 et il a souhaité revenir sur ce qui le différenciait économiquement avec Emmanuel Macron. On écoute François Hollande.
Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez un placement financier que vous investissez dans l'économie réelle? Non.
Alors pourquoi donc, fait-il pourquoi ça? C'est parce qu'il aime les riches?
Non, mais pourquoi aller... Parce qu'il fait un pari qui n'est pas le bon. Pourquoi aller demander un effort aux personnes qui sont en retraite avec la CSG et exonérer de tout effort et même de consentir un allègement d'impôts, non pas pour les riches, comme on dit, mais pour les très riches? Parce qu'aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce creusement des inégalités que je vois à l'échelle du monde est un des sujets majeurs. Et il n'y aura pas de croissance durable, il n'y aura pas de cohésion et nationale et sur le plan international de développement et de paix s'il y a ce creusement des inégalités.
Et voilà, François Hollande, c'est incroyable, un mot qu'on dirait qu'il est en campagne. François Hollande,
oui,
non?
C'est ce que je me disais, on entend les mêmes mots. Bon, il a un peu changé physiquement, mais par rapport à la campagne où il avait maigri.
Oui.
Mais c'est, je ne sais pas si c'est audible, en fait, par les Français d'avoir l'impression d'un retour en arrière, alors que, il y a eu un changement générationnel et qui a été, justement, souhaité par les Français aussi.
Oui, c'est ça aussi. Est-ce que, alors Breton, ça, il le saisit ou pas? Justement, ce dégagisme, cette ambiance qu'on a eue, pendant la présidentielle, après législative.
Pendant la présidentielle, il dit, je suis resté en retrait, je n'ai pas dit grand chose, même si on se souvient qu'il avait encore envoyé quelques pics. Mais il dit, je fulminais à l'intérieur, justement, face au dégagisme. Il disait, il mettait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans, pour le coup, dans le même sac. Mais surtout, ce qui est étonnant, ça, en fait, c'est que il n'a jamais dit, contrairement à Nicolas Sarkozy, qu'il quittait la politique. Oui. Il le redit. Il ne quitte pas la politique. Il s'engage différemment. Et on peut se dire, on ne sait pas s'il est en campagne en ce moment. Il est en campagne pour la vendre son livre. Ça s'appelle une promo. Est-ce qu'il se réengagera? Je pense que dans son entourage, tout le monde est bien conscient que la France s'est peut-être un peu américanisée et que désormais, les hommes politiques qui ont perdu une fois la présidentielle ne peuvent pas revenir. C'est le calcul que les gens font autour de lui.
S'il va revenir, mais en tout cas, il a fait son bilan. On va aussi l'écouter. Voilà. De quelle manière il a parlé de ces années, de ces 5 ans à l'Élysée avec Anne-Sophie Lapix. On écoute François Hollande.
J'avais un devoir aussi de regarder si les résultats de l'action de mes gouvernements avaient produit leurs effets et j'ai pensé que c'était à moi de le dire puisque je ne voulais faire ces personne d'autre à le faire à ma place.
Mais personne ne le fait, hein. Ça c'est certain, c'est le sens de ma question.
Eh bien, avec ce livre, ils le feront tous.
On va le voir.
Car ils auront tous les éléments qui leur permettront de regarder précisément nos résultats. On les connaît, une croissance qui a été rétabli au-delà de 2%.
Ils vont en parler.
Déficit du budget qui a été mis en dessous des 3% et 700 000 emplois. Mais je ne suis pas là aussi pour dissimuler les erreurs, les échecs, parce que j'ai voulu en faire moi-même l'expression des regrets que je pouvais avoir.
Voilà, François Hollande, voilà, qui n'est plus président, on est en 2018, bien sûr. Patrick McCon, quand vous entendez ça, François Hollande, quel avenir vous lui voyez ?
Écoutez, l'avenir qu'il a, il a l'âge qu'il a, d'accord. Il a en face de lui Macron qui débute un parcours qui me semble qui va durer parce qu'il en a la volonté. Après, résoudra-t-il tous les problèmes qu'il a prétendu pouvoir résoudre ? Nous verrons.
Oui, bien sûr.
Mais je ne vois pas comment Hollande pourrait se relancer en politique avec qui. Il n'y a plus de parti socialiste ou si peu.
Oui.
Et le Parti Socialiste qui reste, enfin les fidèles, ceux qui sont encore encartés, disons-le, ceux-là, je crois qu'ils ne reviendront pas vers François Hollande, ils ne viendront pas le soutenir. Et les Français, à mon sens, quand il a quitté le pouvoir, il avait 3% d'intention de vote, il faut s'en souvenir.
Frédéric Matonti, François Hollande, vous lui voyez justement un avenir dans la politique ou alors une ONG comme lui ou une association
Il a une fondation.
J'ai pas du tout l'impression.
Il parle beaucoup d'international, notamment sur la Syrie, par exemple. On en parle beaucoup en ce moment. On l'a vu tacler Emmanuel Macron.
Oui, là, il y avait une position assez forte sur la Syrie. Bon, je veux dire, je pense pas du tout qu'il imagine qu'il puisse revenir comme candidat. Je sais bien que les hommes politiques ont une vision parfois très. Bon, mais je crois pas du tout que ce soit ça qu'il dise quand il dit qu'il intervient en politique. Je pense pas du tout que ce soit ça qu'il ait en tête. Et effectivement, là, c'est un trou de souris. Bon, maintenant, personne ne sait ce qui se passera dans 4 ans. mais bon, c'est vraiment. Je crois que c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire.
Bon, il avait quelques velléités pour l'Europe, mais je crois que ça.
Il faut
le soutien de Macron.
Tout le monde cherche des têtes de liste en ce moment. Vous savez, Patrick.
Absolument.
Merci beaucoup d'ailleurs, Patrick Biogon, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Frédéric Matonti. La Une du Figaro, demain, Marion Mourgue.
Un entretien croisé entre Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui promet justement de réduire les dépenses publiques et la dette dès cette année.
Et Laure Breton pour Libération.
Un retour sur la polémique que nous évoquions au début de cette émission sur la laïcité et le président, et ce sera Frère Emmanuel, la manchette.
Très bien.